Un peu de pub, un livre vient de paraître en français, La Paracha. C'est un des rabbins de la Yeshiva qui l'a écrit. Je ne saurais trop le conseiller. C'est un recueil de commentaires sur La Paracha, mais accompagné de très belles anecdotes sur les histoires de Grand Israël, en français, facile à lire, captivant, sur tout Bereshit, chaque paracha de Bereshit. Il vient de sortir en France, donc je conseille de l'acheter. Le cours aujourd'hui est dédié à la réfouachem, à la guérison complète de Carole, Julie, Badjaklin, Mesaouda. Betor Koshar Cholé, Amo Israël. On parle un peu de la prière. Le Gaon de Vilna a écrit, dans son commentaire sur les livres de Kabbalah, Sifra de Tzniuta, le livre de la pudeur. C'est un livre de... C'est une partie du Zohar, que j'ai jamais lu d'ailleurs, mais très souvent des commentateurs citent le commentaire du Gaon de Vilna là-dessus. Et là-bas, le Gaon de Vilna, il dit que, une chose qui est très connue, que Dieu, avant de créer le monde, il a regardé la Torah. C'est-à-dire que la Torah, à chaque fois qu'on fait un acte, il y a une pensée qui va antécéder cet acte. La pensée qui antécédait l'acte de création du monde, la pensée, c'est la pensée de Dieu. Dieu, avant de créer le monde, il a pensé le monde. Cette pensée est exprimée dans la Torah. Et tout se trouve dans la Torah. C'est le plan du monde. Tout ce qu'il y a dans le monde, il y a dans le plan, c'est le plan, il y a dans le monde. D'ailleurs, il y a une quinzaine d'années, des grands statisticiens israéliens, deux Baalei Tshuva, Doron Witztum et Elio Rips, ont pu prouver qu'il y avait des codes complexes, comme on l'appelle le code complexe, intervalle régulier minimal, dans la Torah, dans lesquels on voit vraiment toute l'histoire. On ne peut pas savoir cette histoire à l'avance. Je ne pourrais pas en parler maintenant, peut-être à l'occasion, on fera un cours sur les codes. On ne peut pas savoir à l'avance. Ceux qui, comme il y a certains escrocs, dont je peux le dire sur Internet, c'est un certain... Bon, je ne vais pas le dire, je ne vais pas me faire attaquer. Il y a des livres qui sont écrits sur les codes par des escrocs, d'accord, qui annoncent le futur. Il est impossible, par les codes, de connaître le futur. Seulement une fois que le... Pourquoi ? Je le dis rapidement, bien que personne ne comprendra rien. Le code fonctionne, on a remarqué, on a prouvé de façon scientifique que chaque fois qu'il y avait une proximité dans la réalité entre deux objets, entre deux notions, par exemple, on a fait une étude sur des noms de rabbins avec leur date de naissance, on prenait, ou de décès, on a pris une liste de 70, à peu près 70 rabbins, on a pris leur date de décès ou de naissance, on a remarqué que leur date de naissance avec leur date, avec leur nom, apparaissait en chacun en intervalle régulier minimal, proche l'un de l'autre. De façon statistique absolument extraordinaire, il y avait une chance sur 10 000 milliards que ça arrive par hasard. Donc c'est une preuve qu'effectivement, chaque fois que nous avons deux notions, qu'une relation sémantique de sens dans la réalité, ils vont apparaître rapprochés dans le texte au niveau des codes. Le piège est que des gens veulent voir le futur. Comment ils vont voir maintenant qu'il y a deux mots rapprochés? Parce qu'on va dire, voilà, bombe atomique 2006. Ils voient le mot bombe atomique, ils le trouvent à intervalle régulier minimal dans la Torah. Ils trouvent l'année 2006 aussi. Ils se disent, vu que les deux sont arrivés, sont proches l'un de l'autre dans la Torah, ça prouve qu'aussi dans la réalité, il y a une relation sémantique entre les deux. C'est faux. Tout ce qui a une relation sémantique dans la réalité se trouve, oui, rapproché dans la Torah. Mais pas tout ce qui est rapproché dans la Torah se trouve forcément rapproché dans la réalité. Parce que dans une page de Torah, tu as bien un million de codes qui sont, il est impossible que 1 million de noms qui soient marqués dans cette même page ont tous une relation sémantique dans la réalité. Je dis très rapidement, celui qui a compris, tant mieux, celui qui n'a pas compris, tant pis. Quoi qu'il en soit, le Gaon de Vilna a dit une chose qui est marquée dans Chazal, que Dieu a créé le monde avec la Torah, donc tout ce qu'il y a dans le monde est dans la Torah, tout ce qu'il y a dans la Torah, il y a dans le monde. Comme il a reçu le Gaon de Vilna, il dit que le résumé de la Torah se trouve dans les 6 jours de Bereshit. Donc en fait, en résumé, tu as toute l'histoire du monde, toute la réalité, et il dit là-bas l'histoire des animaux, des insectes, des végétaux, des êtres humains, de tout ce qui est dans la réalité, de tout ce qui est dans la réalité est dans la Torah. Et tout cela se trouve en résumé dans 6 jours de la création. Et toujours la création se trouve, tous les jours la création se trouve en résumé dans le premier verset de la Torah. Bereshit, bara Elohim, et Hashamayim, et Haaretz. Et tout ce verset-là se trouve résumé aussi dans le premier mot de la Torah, Bereshit. Et tout cela se trouve résumé dans la première lettre, Bet, et tout se trouve résumé dans le point du Bet. Alors, je vais expliquer lentement, tu vois. Hein. En très résumé, que dit le verset, premier verset de la Torah? Il dit Bereshit, Bet Reshit, deux choses primordiales. Je vais parler une fois ici devant vous. deux choses primordiales ont été créées. On va dire un peu différemment que la première fois. La première fois, on avait dit qu'il y avait deux choses qui ont précédé le monde. C'était la volonté de Dieu et la pensée de Dieu. Maintenant, on va dire un peu autrement. Bereshit, deux choses primordiales, mais ça va voir aussi, ça revient au même. Hashamaim va aleph. Deux débuts, Dieu créa le ciel et la terre. Ciel et terre. La première lettre, c'est bet, c'est deux. Et le point, c'est un. Mais c'est un qui est fait des deux. Quand tu unifies, le point, c'est un point, d'accord, c'est une unité. Tu vas unifier quoi? Deux choses qui sont séparées. Quoi, le ciel et la terre? C'est-à-dire que le monde, tout le monde entier, est séparé en ciel et terre. Nous-mêmes, on est créés de ciel et terre. Tu as une partie qui est l'âme, qui est la partie ciel, une partie qui est corps, une partie qui est terre. L'homme et la femme aussi sont considérés comme ciel et terre. Le monde entier, Dieu, par rapport à l'humanité, ciel et terre. Maintenant, nous devons, c'est tout le job, c'est tout le pourquoi de ce monde-là. Dieu a voulu créer une terre, donc séparée de lui, séparée du ciel, et veut que la terre se rapproche du ciel, en faisant en sorte que le ciel se rapproche de la terre. C'est comme une relation d'amour entre un homme et une femme, entre Dieu et l'humanité. Dieu veut que l'humanité, le monde entier se rapproche, et c'est ça le but de toute l'humanité. C'est à la fin, il y a une union, c'est le Shabbat. Ce qui passe le Shabbat, c'est il y a le monde de la matière, il s'arrête, et il s'unit à Dieu. Parce que nous, le jour du Shabbat, il y a une union vraiment entre âme Israël et Dieu. Le but est qu'il y ait une union totale qui se fasse entre le ciel et la terre. Cette union, c'est une histoire d'amour. D'accord? C'est ce qu'a dit Rabbi Akiva. Si tous les livres sont saints, il y a un livre qui appelle le Saint des Saints, c'est Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques. C'est une histoire d'amour. Avec le petit problème que quand on lit le Cantique des Cantiques, on voit que l'histoire d'amour mais ratée. Pourquoi? Parce que sans cesse, l'amant et l'amante, ils se cherchent, ils se voient, ils tapent à la porte, le temps qu'elle se lève, elle ne veut pas se lever, elle est paresseuse, elle va ouvrir la porte, déjà il est parti, où est-ce qu'il était? Et chaque fois, il ne se trouve jamais. D'accord? C'est, elle a envie de lui, lui a envie d'elle, c'est une histoire d'amour, mais il n'y a pas de... La fin n'est pas arrivée. Comme nous sommes ici sur Terre. Nous sommes ici sur Terre en relation d'amour avec Dieu et on est en processus d'union avec Dieu. Mais l'union n'a pas encore été faite. L'union sera quand, à la fin, le tikkun haklali, la fin totale de l'histoire, ce sera une union totale entre la Terre et Dieu. Comme dans le Saint des Saints, on avait le tabernacle, donc la boîte dans laquelle il y avait les tables de la loi, et il y avait les chérubins, et c'est marqué dans Chazal, disent que c'était un homme et une femme. Et ils s'unissaient, et entre les deux, d'entre les deux, sortait la voix de Dieu. C'est-à-dire que la voix de Dieu, dont on veut parler, c'est ça, c'est cette histoire d'amour, d'accord, sort de la relation qu'il y a entre les deux. C'est marqué dans Divrei Hayamim, dans les chroniques, comment t'appelles le Saint des Saints? Cheder Amitot. La chambre des lits. Or, les idiots, ils vont dire, les gens intelligents comprennent qu'on parle maintenant de relation d'amour avec Dieu. Quand on dit Shema Israël, écoute Israël, Hachem, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un, Hachem Echad, et alors, ok, Dieu existe, il est un. Et alors, ten mitzvah ve'avta, amour, c'est la première chose. Ça, c'est le but. Une union avec Dieu, une réconciliation, c'est ça. Comme dit le Rambam que celui qui aime Dieu va l'aimer plus que quelqu'un qui est fou d'une femme, à laquelle il pense quand il dort, quand il se lève, quand il mange, quand il boit, il pense à elle sans cesse. Plus que cela, ça existe ça avec Dieu ou ça existe ça avec la femme? Ça peut exister, sûrement. C'est certain. En tout cas, des moments, c'est certain. On va en parler. Dans quel moment? Attention, on peut arriver à ce que ce soit sans cesse. Il y a un travail. Le deuxième paragraphe du Shema Israël, le premier dit « Va'avta et Hashem Elokecha », tu vas aimer Dieu de tout ton âme, de tout ton pouvoir et de tout ton cœur. Tout ton cœur, tout ton âme, tout ton pouvoir. La deuxième paracha, le deuxième chapitre dit « Va'im Shema Tishmuel Mesod Hashem Mesod Etrem Ayom Le'ahava et Hashem Elokechem ou l'Ovdo, le servir, Bechol Levavchem ou Chol Nafshechem » de tout ton cœur, de tout ton âme. C'est quoi servir Dieu de tout ton cœur? Tout ton âme, c'est avec toute la force que j'ai, avec même au prix de ma vie, d'accord? Mais c'est quoi servir Dieu de tout mon cœur? Dis Chazal, Eze Avoda Shebalev, c'est quoi le service de Dieu, le travail? Avoda, c'est un travail du cœur. Et Omer dit, c'est la prière. Si on parle de relation, de moment de relation d'amour qu'il puisse y avoir entre un homme et Dieu, c'est comme entre un homme et une femme. le discours. C'est vrai qu'il y a une relation sexuelle, mais la relation sexuelle, s'il n'y a pas un discours, beaucoup de discours, beaucoup de communication, dont l'aboutissement arrive à l'acte, alors c'est un acte de prostitution, c'est rien d'autre. Quand on parle maintenant d'une relation entre... T'as un corps, mais t'as une âme, t'as un monument, un être qui s'unit à un être. Je ne suis pas qu'un steak, d'accord? C'est pas un steak et un steak. C'est des âmes qui vont se lier. L'âme, elle se lie par la parole, par la communication. D'ailleurs, le terme employé dans la Torah pour dire la relation, c'est Yada, Vadam, Yada et Trava. Adam, il a su Ève. Comment il a su? Comment il a su? Il a regardé. On sait, on connaît. Une connaissance. Connaissance, c'est par la parole. Si je te regarde, je vois ta couche première. Je vois les poils et la peau. Qu'est-ce que je vois? Je vois pas grand-chose, un peu de viande, d'accord? L'essentiel de l'être, c'est pas le steak, c'est pas la viande, c'est lui. Lui, je ne peux pas le voir, il est invisible. Mais il peut s'exprimer, je peux le connaître. Je peux, moi, créer une relation avec Dieu d'expression et d'aller-retour. Pas non seulement je parle, mais je sens, il y a un feedback qui revient. C'est bon, ça s'appelle prière.
Pour construire quoi? Parce que autant avec une femme, on peut voir très bien, on construit une famille, on construit... Mais avec Dieu...
C'est exactement le but de mon cours. Qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi le but de la prière? Alors, c'est pour ça que j'ai commencé à dire maintenant...
Excusez-moi, oui. Vous parlez de retour, mais la prière, c'est un monologue.
Non, justement, j'expliquais les deux. Alors, d'abord, j'ai commencé à dire que, justement, le monde a été créé en deux. Tu as ciel et tu as terre. Et l'union entre les deux... C'est non seulement le plaisir le plus grand qu'il puisse y avoir, mais c'est vraiment la réalisation de soi-même. D'accord? Des grands... Bon, je citais Camus, c'est pas un rave, d'accord? Mais Chochma Bagoim Ta'amin, c'est marqué, la sagesse. Dans l'égoïme, tu peux aussi croire. Torah, il n'y a pas. Relation, révélation de Dieu, il n'y a pas. Mais Albert Camus a dit une chose qui est vraie. Il a dit, si un homme... savait que l'acte qu'il fait, c'est l'acte qui le réalise, c'est le bonheur parfait. L'acte que tu fais qui te réalise, tu te réalises. Lorsque nous réalisons notre but sur terre, forcément ça mène du bonheur. Le but, c'est l'union entre ciel et terre. Ça veut dire l'union à Dieu. Quand je suis maintenant en union avec Dieu, je suis en train de me réaliser parce que je me branche avec la source de vie. Donc tu as un flux de vie extraordinaire qui vient. Donc non seulement ça donne du bonheur, du plaisir, mais ça ce sont les accessoires. C'est, en passant, ça te donne du plaisir. Mais tu te réalises, parce que tu amènes maintenant, c'est ce que Dieu a voulu. Dieu a voulu créer en quelque sorte un monde manquant dans lequel lui va donner. Et ce monde manquant, lorsque lui donne, il s'unit à lui. Et lorsque on s'unit à Dieu, en cela, il y a réalisation du but de Dieu. C'est cela que nous avons créé. Quand tu es avec, on va dire, quelqu'un est uni avec sa femme, le but, c'est pas faire des enfants. Quelqu'un qui a déjà, Baruch HaShem, il a 15 enfants. Et alors quoi, c'est fini, il fait plus d'enfants. Il n'y a plus de relation, il y a encore de relation, parce qu'on parle de relation. La relation en elle-même, l'union entre l'homme et la femme, le Chazon Ish dit, c'est ça, Kavanat et Tzera, c'est l'intention de la création. Dieu a voulu qu'il y ait union entre l'homme et la femme. Dans le sein des saints, tu as une union entre homme et femme. Tu as Dieu qui sort, la voix de Dieu sort de cette union qu'il y a. Lorsque moi je m'unis maintenant à ma source, c'est ça qui fait qu'il y a un flux de grandeur, de lumière, de bonté, de bien, de bonheur qui rentre dans le monde.
Il y a un intérêt commun quand il y a un couple. Qu'on soit religieux ou pas religieux, il y a un intérêt commun et chacun...
Mais Dieu ne t'aime pas. Donc je répète la question parce qu'on n'entend pas sur le micro. Tu dis qu'il y a une réciprocité, il y a un intérêt commun lorsqu'on s'unit avec sa femme. Je l'aime, elle m'aime. Il y a une communication avec Dieu aussi. Dieu nous aime pas. Dieu nous adore. Rahamav al kol ma'asav. Dieu a la miséricorde de tout ce qu'il a, même la petite fourmi. C'est marqué, Chazal disent, même les œufs de poux. Hein, t'as un poux. Franchement, faut y aller pour l'aimer. Ben lui-même Dieu, il n'oublie pas. Quand chacun a la plus forte raison, l'être humain, plus forte raison, celui qui se branche avec Dieu. Il est le but de la création. Il est le but de la création. Quand tu te branches avec Dieu. Alors ça s'appelle prière. Alors, comment fonctionne la prière?
Si l'essentiel c'est la prière, on
pourrait
passer
99%
de notre temps.
Rabbi Yochanan a dit, Levaï, vit paladam kolayom. Si seulement l'homme, il priait toute la journée. Allez, vaï. Simplement, il y a d'autres façons aussi. C'est comme si tu es avec ta femme maintenant et... il y a un courant d'amour qui passe, mais ça n'arrête pas là. Il y a d'autres choses aussi dans la vie. D'accord? Alors aussi, au niveau de la vie juive, on aura trois axes. Comme c'est marqué dans la première une des premières maximes des pères, Pirkei Avot, à Shoshat Devarim, Aholam Omed, sur trois choses de mon tien, à la Torah, va à la Voda, va à Gmilut Chassadim, sur la Torah, étude de Torah. C'est important, ça c'est l'intellect. On se branche avec Dieu aussi avec l'intellect. Ensuite, Avoda, c'est ce dont je parle, c'est le service, c'est le corps, c'est la prière, c'est le cœur. Gmilut Chassadim, c'est l'action. Il y a trois étapes. L'intellect, le cœur, l'action. Si quelqu'un il est avec sa femme qu'avec le cœur, ça ne marche pas. Elle veut communiquer aussi avec lui au niveau de l'intellect. Si elle a que l'intellect, ça ne marche pas non plus. C'est l'intellect et puis le corps, mais il n'y a pas l'action, ça marche pas non plus. Si elle a que l'action non plus, il faut les trois. Nous sommes formés de ces trois parties-là. De ces trois parties-là, nous devons nous réaliser. Maintenant, il est certain qu'il faut le cœur. Parce que sans cœur, à quoi sert l'intellect et à quoi sert l'acte? Tu as une communication très sympathique avec ta femme, tu as des actes très sympathiques, mais tu n'as pas de cœur, c'est rien du tout. C'est la prostitution, de nouveau. Donc, il faut faire agir le cœur. Et là, ça demande un travail. Pourquoi? Parce que la question que tout le monde pose, Dieu, je ne le vois pas. Je peux encore parler avec ma femme, d'accord, je vois, je lui fais un clin d'œil, d'accord. Il y a quelque chose qui se passe. Je fais un clin d'œil à Dieu, rien qui se passe. Alors, comment on doit faire? Alors, c'est ça le grand travail de la prière. C'est, comme dit le Shulchan Aruch, c'est pas du moussard. Le Shulchan Aruch, il dit que, marqué dans le Siman Tzar, dans le chapitre 98 du Shulchan Aruch. 98 en Gematria, ça signifie tsar, ça signifie pur, pur. Il faut une pureté de cœur. Il faut arriver à quitter le corps. Alors, on ne parle pas maintenant de voyage astral, et que nous, le type, on l'appelle et il pue là. Mais quand quelqu'un est concentré en prière, il quitte le corps. Ça veut dire qu'il ne ressent plus maintenant. On va dire comme ça. Depuis que nous sommes nés, nous vivons avec un corps. Et nous avons une appréhension. C'est-à-dire que nous avons un contact qu'avec les choses que perçoivent nos sens. Ce que je vois, ce que je sens, ce que j'entends, etc. Les choses qui sont spirituelles, on ne les voit pas, on ne les entend pas, ni on les touche. Pour un gosse, ça n'existe pas. Il ne sait pas de quoi on parle. C'est beaucoup plus tard, dans l'histoire de l'être humain, vers l'âge de 13 ans, ça commence très petit, mais ça va en augmentant. Quand commencent les vraies questions existentielles, pourquoi je vis, ça ne fait pas partie des choses que je vois, ni que je touche, ni que je sens, ni que j'entends. Ça fait partie c'est une grande partie de l'être qui se réveille. Une partie spirituelle. Qui dit quel est le sens de ma vie? Où est la vérité? Qu'est-ce que je fais dans ce monde? Ah! Là, il y a déjà une entité spirituelle qu'on peut faire agir. C'est cette partie qu'on va actionner durant la prière, mais pas au niveau intellectuel, mais au niveau affectif, au niveau sentimental.
C'est pas trop au niveau de l'intellect aussi, ces questions.
Oui, là j'ai dit, c'est intellectuel, mais dans la prière, on va faire agir une autre partie, qui est la partie spirituelle, mais dans sa partie sensitive, sentimentale, je dirais. C'est une histoire d'amour, de contact. Je me mets maintenant devant mon Créateur, celui dont dépend toute ma vie, et je comprends par ma tête, ça c'est intellectuel, que vraiment de lui dépend tout. C'est très dur, parce que dans la vie, c'est moi qui fais tout. Il y a un problème, je dois le régler. Quelqu'un est malade, qu'est-ce qu'on fait? Je dois aller voir le médecin. Il faut le faire, c'est certain. Il faut gagner de l'argent, il faut finir le mois. Il y a un problème avec quelqu'un. En fait, tout ça c'est un grand piège. Dieu a créé ce monde. Dieu a voulu que par nous-mêmes, on se rapproche de lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer des embûches. Il va créer un monde. Un monde qui me dit, Dieu n'existe pas. Débrouille-toi tout seul, c'est toi qui dois t'arranger, sinon ça ne marche pas. Mais en fait, il me dit, avec mon intellect, comprends, sache qu'en fait, c'est lui qui gère tout. Et c'est à lui qu'il faut parler. Il y a un effort, c'est donc un rapprochement de la terre vers le ciel, un rapprochement de l'homme vers Dieu, que je dois comprendre maintenant dans la prière. C'est ça tout le job de la prière. Comprendre et agir dans ce sens au niveau sensitif, au niveau sentimental. Comprendre d'abord que vu que c'est Dieu qui gère tout, alors maintenant j'ai quelqu'un qui est mal dans la famille, alors il faut aller voir le médecin. Le médecin n'est qu'un envoyé. Si Dieu veut, le médecin, il guérira. Si Dieu veut pas, le médecin, il guérira rien du tout. Donc c'est à Dieu qu'il faut parler. Mais ça demande beaucoup de force au niveau de la foi. La foi, c'est ça, la relation avec Dieu. La émouna, l'unité avec Dieu, c'est dans la foi. Et quand tu vas maintenant exprimer cette foi, Dieu, je sais que c'est de toi que ça dépend. Je t'en prie, je te supplie, fais que.
Alors justement, quand on arrive à ce niveau-là, la prière, est-ce qu'elle ne devient pas uniquement une prière intéressée parce qu'on ne fait que demander des choses pour nous?
Alors, la prière qui est instituée par les prophètes, par les sages de la grande assemblée parmi lesquels il y avait quelques prophètes, elle ne concerne que le bien de l'humanité. C'est-à-dire directement le bien d'Israël, le peuple d'Israël, et par ricochet, toute l'humanité. toutes nos demandes, les vraies grandes prières, c'est celles qui parlent de Dieu, dévoile ta grandeur dans le monde. Quand on demande par exemple la prière, envoie de la refoua, de la guérison à tous les malades. Alors, c'est en passant, bien sûr, nous voulons que les malades ils soient guéris, mais ce que nous voulons surtout, c'est que la grandeur de Dieu, la bonté de Dieu fasse son apparition dans le monde. Quand on demande que Dieu ramène les Juifs en terre d'Israël, quand on demande que Dieu fasse faire chouva à son peuple, que Dieu pardonne nos péchés, tout ça, nous parlons maintenant qui est un... On vit dans un monde d'obscurité, où le ciel n'est pas apparent, Dieu n'est pas apparent, où on essaie de se débrouiller. Nous voulons maintenant que cette obscurité, elle disparaisse. Qu'on appelle l'autre jour de la lune et du soleil, que la nuit s'arrête et que la lune devienne lumineuse comme le soleil. C'est-à-dire que quand la lune devient lumineuse comme le soleil, il n'y a plus de nuit. La nuit, c'est l'obscurité, c'est l'absence de Dieu. La soi-disant absence, que Dieu, il est pas, on ne le voit pas clairement. Quand je prie maintenant que Dieu dévoile, dévoile-toi. Je sais que c'est de toi que dépend. Je sais que c'est de toi que la lumière peut venir. Alors je demande, dévoile ta lumière. Quand je demande maintenant, alors, qui gagne là-dedans? Chazal ont dit, ha-avoda tzorech gavoa. La-avoda, le service de Dieu, c'est donc la prière. Tzorech gavoa, c'est pour le bien de en haut. Comme si en quelque sorte Dieu aurait besoin de ça. Dieu n'a pas besoin. Mais Dieu a voulu que par nous se fasse son dévoilement dans le monde. Nous voulons dévoiler lui. Le but c'est que lui se dévoile. En quelque sorte, j'aide Dieu. Encore une fois, Dieu, lui, n'a pas besoin de moi. Mais il a voulu me donner ce job par bonté de Dieu. Dieu me donne maintenant un job fantastique. Il me dit, tiens, aide-moi à me réaliser dans le monde. Aide-moi tu seras associé au dévoilement de moi-même, Dieu, dans le monde. C'est fantastique de pouvoir dévoiler Dieu dans le monde. Comment on fait ça? Ben, d'abord nous-mêmes, quand on a des problèmes dans la vie, on va comprendre ces problèmes, c'est pas à moi de les régler. Je dois faire ma ishtadou, je dois faire mon jeu comme si. Je dois aller bosser pour avoir de l'argent, je dois aller voir le médecin quand il y a un malade, je dois arranger tout. Mais savoir que c'est la comédie. Je joue le comme si. La vraie adresse à qui m'adresser, c'est Dieu. Et je prie à Dieu. Je sais que de toi dépend tout. Je t'en prie, fasse que. Alors, la prière habituelle se fait que fasse que pour le monde entier. Et il y a des prières spéciales pour moi. Dans le cas précis maintenant, Chassé Shalom Yam Allah, franchement, je ne vais pas finir pour moi, quelqu'un qui me casse les pieds, tout ça, je peux prier Dieu, arrange mes problèmes. Et Dieu veut cela. Ce que les sages de la Grande Assemblée ont institué, c'est une prière qui est standard pour tout le monde. Ça, c'est une prière énorme, d'accord, elle est suivie par les prophètes. C'est vraiment une échelle qui me permet de monter à des degrés très très hauts. On monte quatre mondes, on arrive à des degrés extraordinaires, surtout dans la Amida, dans la prière que nous faisons trois fois par jour, des 18, qu'on appelle ça 18 brachot, mais en fait, il y en a 19. Là, on peut arriver, comme je dis, à un état où tu quittes la réalité, parce que tu es en concentration tellement grande avec Dieu, en supplication devant Dieu, que bon, tu perds la réalité, tu n'es plus dans la réalité, tu ne penses plus à tes affaires, tu arrives à écarter tes affaires terrestres, te concentrer et te diriger entièrement vers Dieu. Et je dis que ça paie, qu'il y a une réciprocité, parce que lorsqu'on est vraiment en état de supplication, de relation, d'amour avec Dieu, c'est une chose qu'on perçoit. On perçoit cela. Quelqu'un avant une prière, après une prière qui est faite bien comme il faut, il n'est pas le même. Il n'est pas le même. En plus, on peut le voir que ça marche.
Si ça ne marche pas.
Alors, c'est pas forcément que les prières marchent. Mais elles marchent souvent quand même. Alors, pourquoi elle ne marche pas? Parce qu'on vit quand même dans un monde d'obscurité, et ça serait trop simple que, hop, chaque fois que tu fais, t'appelles bon Dieu, hop, il répond. Ça serait trop simple. Mais néanmoins, il est certain que la prière, elle a un impact. Chaque prière faite du fond du cœur, on appelle, comme on dit dans Asher Yoshevetecha, Karov Hashem le Chol Kora, le Chol Asher Ikara, Uhu Vehemet. Dieu est proche de tous ceux qui l'appellent, de ceux qui vont l'appeler avec vérité. Il faut l'appeler avec vérité. Quand tu appelles du fond du cœur, ça aura toujours un impact. Alors, est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est dans un an ou dans 10 ans? Est-ce que c'est pour la personne que tu parles ou pour une autre? Ça peut être Dieu, il a ses comptes. On sait jamais qui, quoi, comment. On vit dans un monde d'obscurité. Mais que ça a un impact, c'est certain que ça a un impact. Et très souvent, nous voyons que ça a un impact direct sur ce que nous voulons aussi. C'est une chose qui marche, la prière, c'est une chose qui marche. Il y a eu des... Ils ont fait une étude scientifique en Amérique, des non-juifs. Ils ont pris 1000 personnes malades, et ils ont demandé à 500 de prier pour les 500 autres. Et les 500 autres de ne pas prier pour les 500 premiers. Ils ont vu de façon assez stupéfiante que les 500 pour qui on a prié, il y avait un taux de guérison beaucoup plus grand. C'est pas très sympa, c'est vrai. Hein? Ils ont prié, adieu, ça suffit, adieu. Adieu.
Dieu, il écoute même les prières des gens qui ne sont pas nécessairement religieux ou quoi que ce
soit. Absolument, Dieu écoute tous ceux qui l'appellent vraiment. Du fond de la détresse. C'est le truc, c'est un truc qui marche. C'est un truc qui marche. J'ai raconté, j'ai une histoire très personnelle, c'était il y a 3 ans environ, mon fils a été poignardé. Et on nous a appelé à 2h du matin, venez vite, en voiture, c'était à Natania, il fallait quitter Jérusalem, aller à Natania. Et on nous a dit, bon écoutez, sa situation elle est stable, mais stable qui va crever ou stable qui va vivre, on sait, bon, c'était stable qui allait mourir. Sa situation était appelée, était considérée comme caché meod, très difficile, il avait 6,8 d'hémoglobine. Non, non, on s'en sort pas, notre père. Il a perdu beaucoup de sang. Il y avait 2 coups de poignard. Les chirurgiens n'ont cru qu'avec un seul. Et donc, ils ont opéré, mais ça continue à saigner. Tu perds beaucoup de sang. Au bout d'un moment, tu t'en sors plus. Bon, il y a beaucoup ici à la Shiva, ils ont prié. La Shiva de où il était mon fils, ils ont prié, ça. Moi, avec ma femme en route, alors, bien sûr, on priait aussi. Alors, je peux dire, j'ai raconté ça il y a 2 semaines à quelqu'un, un ancien élève de la Shiva ici, que de ma vie, je n'ai pas ressenti une proximité, un amour, une chaleur de Dieu aussi grande qu'à ce moment-là. Ce sont des moments, on ne souhaite à personne, personne ne veut vivre une chose, mais dans la détresse, alors tu te branches avec Dieu, mais un branchement solide. Mais c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Alors j'ai raconté ça il y a 2 semaines à un de mes élèves, et il y a 1 semaine, il me dit, écoutez ce que vous m'avez dit, je l'ai vécu moi-même maintenant. Il m'a raconté que sa femme, elle est tombée enceinte, et il y avait un problème, ils sont allés voir le gynéco, qui, ils ont fait un ultrason, ils ont vu qu'il y a un problème dans le cœur, il ne tiendra pas le gosse, tout ça. Lui, il m'a dit, jusqu'à ce qu'il ait allé voir encore, pour finir, ils sont allés vérifier avec d'autres médecins, et tout était OK. Pendant cette journée, ces 24 heures-là, il a tellement prié, il a senti une proximité. Alors, tu es dans le malheur, mais tu sens une bonté, une proximité de Dieu extraordinaire. Ça existe parce que tu es en relation avec la source. Maintenant, je vais rajouter plus que cela. Pourquoi Dieu il amène la maladie? Pourquoi Dieu il amène le malheur? Pourquoi Dieu il amène les problèmes financiers? Pourquoi il fait tout ça? Parce que Dieu veut tout simplement qu'on se branche avec lui. Alors on se branche de façon naturelle, ou des fois tu as des accélérateurs de branchement. C'est quoi la tuile? D'accord, qu'on souhaite à personne. Mais on voit que dans le monde il y a des tuiles. Alors est-ce que Dieu il est méchant, il envoie des tuiles bêtement comme ça? C'est pas seulement dans le malheur, mais il est certain. Alors ce que j'ai dit, ou tu te mets en branchement naturel toi-même, mais dans tous les cas, de toute façon, on vit dans le monde de la nuit, on vit sur terre, on n'est pas dans le ciel. Et Dieu veut qu'on soit dans le ciel, il veut qu'on se branche avec lui. Alors de toute façon, il est certain que lorsque sur terre ça va pas, tu vas te brancher beaucoup plus fort. Quelqu'un, quand tout va bien, oh, il est pépère, ça va. Vaishman, Yeshurun, Vaivat, c'est marqué. Yeshurun, le peuple d'Israël, il a engraissé, Vaivat, il a donné un coup de pied. Ah, ça va, Dieu, Baruch HaShem, tout va très bien. Quand ça va pas, tu cries. Quand ça va pas, tu cries. Quand ça va, il faut crier, mais c'est très dur de crier.
Mais dans le bonheur, c'est impossible d'avoir un malheur.
Bien sûr, absolument. Personne ne demande qu'il y ait des malheurs. C'est Magdalena qui a dit qu'il n'y ait ni les malheurs, ni leur mérite. On ne veut pas des malheurs. Personne ne veut des malheurs, personne ne veut le fils poignardé, personne ne veut des enfants qui ne vivent pas. Chas et shalom. Mais si ça arrive, alors quoi? Dieu, c'est un sadique? Pas avec un sadique. C'est un sadique. Pourquoi il nous fait ça? Ou bien Dieu veut simplement maintenant que je me réoriente avec lui. Et ça a tellement de valeur, cette réorientation avec Dieu, qu'elle vaut la peine aux yeux de Dieu d'envoyer les malheurs. Parce que cette orientation, elle va que tu crées maintenant une relation éternelle dans l'éternité. Le malheur, il passera. Et c'est ça le secret, c'est que quoi? C'est que lorsque tu te mets en réorientation avec Dieu, alors le but escompté que Dieu a voulu, il a été obtenu. Donc très, très, très souvent, le malheur, il disparaît. Vu que Dieu voulait quoi? Tu branches avec lui, tu t'es branché, alors plus besoin du malheur. Le malheur, il était le catalyseur, il était le moyen. Ça marche pas tout le temps. Tout ce que je dis maintenant, c'est au niveau très théorique. Nous vivons dans un monde d'obscurité. Personne ne sait pourquoi on est venu. Il y a les Gilgoulim, les réincarnations qu'on doit réparer. Il y a on ne sait pas ce qu'il y aura dans le futur. Demain, vient Mashiach. Alors, quelqu'un maintenant, il souffre beaucoup. Peut-être que parce qu'il aura un grand mérite là-bas. Je ne sais pas. On vit dans un monde d'obscurité. Mais il n'est pas complètement obscur. Des fois, on peut voir. Moi, je parle du des fois ce qui se passe. Du des fois ce qui se passe. Quelqu'un qui va commencer à travailler dans sa vie, à se réorienter avec Dieu, surtout dans la prière et dans la foi en Dieu, il verra que très souvent, lorsqu'il y a un problème dans sa vie, lorsqu'il fait foi en Dieu, et il comprend maintenant où sont, je vous ai dit ça souvent, dans toutes les relations que nous avons avec les autres, des fois on est jaloux, des fois on est coléreux, des fois on en veut à quelqu'un, toutes ces choses qui sont pas pures. Pourquoi Dieu nous amène toutes ces tuiles, en quelque sorte, toutes ces épreuves? Parce que ce sont des moyens de nous réorienter dans la vérité. C'est que chez toi, il y a un truc qui ne colle pas encore. Comment tu es en colère? Il ne faut pas se mettre en colère, mais que Dieu gère tout. Donc tout ce qui arrive pour le bien. Pourquoi tu es jaloux? Tu n'as pas d'être jaloux parce que lui, il a son compte avec Dieu. Toi, tu as ton compte avec Dieu. Pourquoi tu es envieux? Ce qui lui revient, ce que tu reviens. Ce sont toutes des mauvaises qualités d'âme qui nous font que nous ne sommes pas maintenant dans la voie de vérité. Dieu veut nous réorienter dans la vérité. Alors il nous met maintenant cette situation qui est douloureuse. Et le seul moyen d'arrêter cette douleur, c'est de se réorienter vers Dieu. C'est comme maintenant, pourquoi Dieu a fait que dans le corps on ait une douleur? Quelqu'un il met maintenant sa main sur la plaque électrique. Puis il a chaud. Ça fait mal. Aïe! Pourquoi Dieu a fait qu'il ait mal? Parce que s'il n'avait pas maintenant chaud, il n'avait pas mal, ben il aurait son bras carbonisé. Dieu a pitié de notre bras, il veut pas qu'on carbonise. La douleur, elle est là, c'est une lumière rouge. Attention, danger, remets-toi dans la bonne voie. Enlève ta main. Maintenant, quelqu'un au niveau de son âme, il a des mauvais traits de caractère. Dieu va lui faire avoir des galères, des histoires, parce que c'est le seul moyen qu'il aura pour se remettre. C'est-à-dire, là, tu as une mida qui va pas. Tu as un trait de caractère ici qui est tordu. Remets-le droit. Quand tu le remettras droit, alors d'abord, tu n'auras plus de douleur, mais aussi, tu vas de façon miraculeuse. Et ça, c'est un truc qui marche, messieurs. De façon miraculeuse, la galère, elle disparaît.
Donc parfois, la prière, elle ne suffit pas. Il faut aussi l'acte.
Bien sûr, j'ai dit, c'est pas quelqu'un, quelqu'un qui est malade dans la famille, il faut pas seulement que prier. Il faut aussi aller voir le médecin, quelqu'un a besoin d'argent, il faut pas seulement que prier, il faut aussi aller travailler. Mais l'essentiel est la prière, parce que.
La personne elle-même, il faut qu'elle change aussi.
Aussi dans les galères, c'est certain. Oui, très bien. Il y a les trois niveaux, il y a l'intellect, il y a l'acte, et il y a le cœur. Maintenant, la prière est un moyen parce que nous, après tout, nous avons quand même des charges affectives très très grandes de nous brancher affectivement avec Dieu. Tu es en relation spirituelle, en relation d'amour. Tu comprends que quand tu as une relation d'amour avec Dieu, le monde il change complètement. Le monde change complètement. La galère n'est plus galère. Le problème, celui qui fait des problèmes n'est plus problème. Je suis avec Dieu. Je suis en relation d'amour avec Dieu. Messieurs, c'est facile, c'est pas si difficile. Pas besoin qu'il y ait des coups de massue qui nous tombent dessus pour se mettre à prier. Tu peux t'asseoir. Tu te rends compte que Dieu nous a donné comme cadeau. Les anges, c'est marqué qu'il y a des anges qui attendent des centaines d'années pour dire une seule fois Kadosh. Et nous, on peut deux fois par jour dire Kadosh, Kadosh, Kadosh. C'est extraordinaire. Tu as un cadeau que tu peux te brancher. Tu te suffis maintenant. Même pas besoin de te mettre pieds joints devant Dieu comme ça. Quelqu'un roule en voiture maintenant. Voilà. Tu roules bêtement. Parle à Dieu! Ça marche! Ça marche! Chaque seconde. Il y a la Gemara raconte. C'est dans le Tanakh. C'était Nehemia ou Ezra. Nehemia ou Ezra, qui était le. Il versait le vin dans la coupe du roi Koresh, Cyrus, le roi de Perse. Et il était triste, il avait appris, il y avait une équipe qui était partie en Israël pour reconstruire le deuxième temple, mais ça n'a pas été. Les gens ici, les voisins arabes, ils ont fait, pas arabes à l'époque, c'était les Cananéens, ils avaient fait des problèmes. Alors il avait reçu que ça avait été interrompu, il y avait des problèmes. Alors il était un peu triste. Alors il vient servir le vin au roi Cyrus, et il dit, pourquoi tu as l'air triste comme ça? Il leur répond tout de suite. Alors, il a fait une prière, mais en 3 secondes. Et je t'en prie, fasse que mes paroles soient acceptées maintenant par le roi. Mais, et il répond. Tu ne peux pas te jeter devant le roi. Il a fait ça, quand je dis en 3 secondes, en une fraction de seconde. Et la Bible cite cette prière qu'il a faite. Ça veut dire que cette prière qu'il a faite, c'est citée par la Bible, qui est un livre saint, ça veut dire que ça a eu un impact. Et que c'est ça qui a fait que le roi, il a accepté effectivement que lui parte quelques dizaines d'années maintenant en Israël pour aller s'occuper de la reconstruction du temple. Une petite prière dite comme ça du fond du cœur, ça a un impact extraordinaire. T'es branché avec l'infini. Dieu nous permet, c'est fantastique, t'es un corps. Il t'a donné maintenant une âme qui est divine, qui te permet de te brancher avec l'infini. Quel cadeau extraordinaire. C'est pas dommage de ne pas en profiter? C'est pas dommage de ne pas en profiter? Achev picha vamaleo, c'est marqué dans le Tehilim. Ouvre, élargis ta bouche et je la remplirai. Allez, ouvre la bouche, dis! Dieu nourris-moi, amène-moi mon chidour. Et quand tu demandes, quand tu demandes pour des bêtises, alors ok, bon. Quand tu demandes dans le sens de ce que Dieu veut, Dieu aide-moi à mieux te servir. Dieu aide-moi à mieux te connaître. Dieu aide-moi à enlever les problèmes de ma vie pour que je puisse mieux te servir. Ah, les problèmes de ma vie. Encore, oh, les problèmes de ma vie. Qui dit que c'est bien? Ah, les problèmes de ma vie pour que je puisse mieux te servir. Aide-moi, tu es la Torah, hein?
Il faut prier tous les jours.
Sans cesse! Sans cesse!
Je sais pas, moi, des fois, j'ai un problème. Je me dis, on passe pas pour un gros égoïste à chaque fois à dire moi, donne-moi tout le temps.
Alors, je t'ai dit que l'essentiel des prières, c'est pour Am Israël. C'est marqué d'abord. Celui qui prie pour son prochain a besoin de la même chose, on lui répond à lui d'abord. Nous, on apprend ça? Parachat Shavua. Hein? Avraham Avinu, quoi? Avraham Avinu, Avimelech, il a pris sa femme, la femme d'Abraham, Sarah. Et vu qu'elle était mariée, alors Dieu a fait un truc, il ne puisse pas avoir d'enfant. Et toute la maison de Avimelech, du roi Avimelech, tout là-bas, tout le monde finit. Impossible, tout ce qui peut sortir, plus il n'y avait plus de glaire qui sortait du nez, plus de salive qui sortait, plus d'urine, plus d'aller aux toilettes, plus de relations, plus rien du tout. La femme ne pouvait pas accoucher, rien, tout était bloqué. Alors Dieu se dévoile à Avimelech, lui dit, sache que la femme que tu as, elle est mariée, Abraham, rends-la et priera pour toi et tu guériras. Le matin il vient, pourquoi tu ne m'as pas dit, etc., etc. Et il dit, je te rends ta femme, il lui donne aussi des cadeaux, et Abraham prie. Abraham prie, et Baruch HaShem, donc toutes les femmes qui devaient accoucher ont accouché, et tout est revenu normal. Directement, Sarah tombe enceinte et accouche. De là, prenne Chazal. Celui qui prie pour son prochain, il a besoin de la même chose, on lui répond d'abord.
En fait, s'il n'y avait pas eu ça, alors Abraham n'aurait pas eu d'enfant.
Enfin bon, dès qu'on connaît
peut-être. Le truc, alors, tu sais, alors, utilise ce truc. Il est vrai que quand nous partons, par exemple, des fois, on parle tout à Shiva, on parle prier sur les tombées de Tzadikim. L'essentiel, c'est prier pour Am Israël. Quand tu pries pour Am Israël, tu pries pour la collectivité, alors d'abord toi en passant on te répond, mais sincèrement, parce que comme tu dis, tu n'as l'air pas intelligent de prier, il y a 6 milliards d'habitants sur Terre, et moi, prie pour le bien de l'humanité, prie pour le bien de Am Israël, prie que ça aille bien dans le monde entier, qu'il n'y ait enfin plus de malheur, etc. En passant, toi aussi, s'il n'y a plus de malheur pour tout le monde, il n'y aura pas de malheur pour toi non plus. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prie pour tout le monde, puis en passant, tu peux aussi rappeler, c'est pour ça que lorsqu'on prie pour un malade, il faut toujours l'inclure dans le klal cholé amo Israël, dans la collectivité des malades. D'accord? Parce que la prière pour une collectivité passe beaucoup mieux. Et une prière d'une collectivité passe beaucoup mieux, sauf qu'on prie en minyan. C'est marqué, même si quelqu'un ne pense pas trop à sa prière, il est un peu dans la lune quand il prie, la prière elle passe. Elle passe moins bien, mais elle passe. Quand il prie tout seul, pas en minyan, elle passe pas. Parce qu'on va vérifier maintenant qui l'a dit. Quel mérite il a, à quel point chaque détail de la prière il a bien pensé, ou il était à Honolulu quand il pensait, il rappelait le nom de Dieu, il est à Honolulu. Encore Honolulu, c'est bien, des fois il est à la plage à Honolulu. Il rappelle le nom de Dieu à la plage à Honolulu, t'imagines, c'est terrible.
Alors, mais prier pour mieux faire une misa, par exemple.
Excellent.
Mais ce serait comme si je priais pour tout le clan d'Israël, pour le
moment. Alors, encore une fois, les prières, celles qui sont le mieux reçues, c'est pour quand on parle de collectivité. Mais maintenant, ça n'empêche pas que nous, pour chaque petit détail de la journée, qu'on prie à Dieu. Alors, tu veux prier pour les détails qui sont tout à fait mesquins. Dieu, aide-moi à trouver une place pour Ougaré. Et pourquoi pas? Tu veux dire que très souvent, je fais comme ça.
C'est pas un peu gênant, c'est qu'il y a des gens qui ont des problèmes beaucoup plus importants que ça, donc on va...
Mais il donne à tout Dieu, il est infini. Dieu, il te donne à aller, rien qu'ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Qu'est-ce que t'as honte de demander? Ouvre ta bouche, Dieu il est prêt, il aide les œufs des poux. Les œufs des poux. Il y a un œuf de poux là qui n'arrive pas à trouver un cheveu où se placer. Moi j'ai ma voiture maintenant, je dois me garer, je suis en retard. Réponds-moi.
Ah, peut-être qu'il aurait pu dire une autre phrase que cette phrase. C'est ça que je veux dire.
Je n'ai pas compris.
Je gâche une prière par une prière qui passe après.
Mais non, c'est pas ce qu'il veut. Ok, priorité, évidemment. Si maintenant le type j'ai un contrôle fiscal et j'arrive pas à garer, je préfère sauve-moi du contrôle fiscal, d'accord, je préfère ça. Mais fais les deux. Fais les deux. Quand tu manques de parole. La prière, tu fais pour Klal Israël quand c'est la prière qui est instituée par Chazal. Maintenant, toute la journée, tu peux faire des prières ou pour Klal Israël, c'est extraordinaire de faire ça, ou pour toi-même. Et je dis que je pense que les prières les plus fréquentes pour ceux qui sont des Bnei Torah, ceux qui sont dans le service de Dieu toute la journée, c'est Dieu, aide-nous à mieux te servir. Aide-moi à prier, aide-moi à t'aimer, aide-moi à étudier, aide-moi à me souvenir de la Gemara, aide-moi à trouver une bonne chavruta, aide-moi à... Qu'est-ce que j'en sais, trouve-moi une femme pour que je puisse mieux te servir, etc. Ça marche.
Il faut que ce soit ce soit prononcé. Évidemment, si c'est pensé, ça ne suffit pas.
C'est beaucoup mieux de prononcer parce que nous avons plusieurs parties en nous. On a une partie qui est l'acte. Alors, un sentiment, pour qu'il soit vraiment complet, il faut l'exprimer dans un acte. Mais dans les cas majeurs où on ne peut pas prier avec la bouche, par exemple, quelqu'un maintenant, il est à l'hôpital, Chassé Shalom, il a une sonde dans la bouche, bloc. D'accord ? Il prie avec la pensée, ça marche aussi. Ça marche aussi. T'es dans les toilettes. Ça m'est arrivé une fois avec le même fils, d'accord ? Il y a beaucoup d'histoires avec lui. C'était il y a 15 ans. Il avait beaucoup de fièvre et il a eu tout à coup une syncope, on appelle des convulsions. Il y a trop de chaleur, alors il y a des convulsions. C'est extrêmement paniquant à voir. S'il est pris comme ça, il fait des crises, c'est terrible, vraiment. Alors ce qu'il faut faire, c'est vite le mettre dans la baignoire avec une douche froide et refroidir. Alors, je suis en train de le mettre dans la douche froide, là, dans la baignoire. Est-ce que je peux prier? Parce que dans la baignoire, on ne peut pas prier, d'accord? Je prie ou je ne prie pas, d'accord? Je suis encore un peu débutant, c'était il y a 15 ans. Toujours pas reçu la réponse. Le monde du rabbin, il m'a dit, dans ce genre de conditions, on ne pose pas ce genre de questions, d'accord? Mais tu penses à Dieu. Dans les moments de panique, il faut penser à Dieu. Alors, quand tu ne peux pas parler, au moins penser. C'est l'heure? Bah, ou Hadonai, l'homme va.